Quatrième journée de la session. Vous devez être un peu rodé maintenant, c'est pas? Alors on peut y aller. C'est pas le début, il faut chauffer le moteur. Du temps, surtout en théologie. Je le lis quand même, ce que c'est donné comme question. J'en parlerai au terme. Je vais peut-être en parler au terme, ça. C'est plutôt une question pour le cinquième jour. Alors, si c'est long, je vais le lire après et on verra ça ce soir. Ah, entre les deux cours. Je vais continuer. Normalement, j'espère avoir la feuille quand même. Vous l'avez, vous, des feuilles, ce qu'on doit voir successivement. Je vais laisser en vous. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas comment, j'ai peur toujours d'oublier quelque chose. Donc, le pluralisme théologique, les différentes approches des pères, contemporain. Bon, une fois qu'on a compris la diversité des autorités, de ce que représente cette science subalternée à la science des saints, je crois qu'il est très facile de comprendre le pluralisme. Au fond, la théologie n'est pas la théologie d'un homme, elle est la théologie de l'Église. Et peut-être que le péché capital des théologiens, c'est de croire que c'est leur théologie. Vous voyez ce que le Saint-Père avait dit à la commission biblique, Jean-Paul II. C'est le Père Barthélemy qui m'a rapporté ça, et puis je l'ai regardé ensuite dans la documentation catholique. Le Saint-Père avait dit aux exégètes, en reconnaissant leur science et leurs compétences, et en reconnaissant qu'en face d'eux, ils n'avaient pas leurs compétences et qu'ils n'arrivaient pas à leur chevilles. C'est bon de la part du pape. Il pouvait le faire parce qu'il a d'autres compétences. Mais il leur dit, vous n'êtes pas assez serviteurs de l'Église. Ça, j'ai retenu. Parce que je dis que pour le théologien, c'est la même chose. Vous n'êtes pas assez serviteurs de l'Église. Et je crois que c'est le grand grief qu'on peut faire aux théologiens d'aujourd'hui. S'ils étaient plus serviteurs de l'Église, ils cherchaient davantage la vérité. La révélation ne m'appartient pas. La Bible ne m'appartient pas. La tradition ne m'appartient pas. L'autorité de l'Église ne m'appartient pas. Je suis serviteur. Et je suis dans la joie d'être serviteur. Dans la très grande joie d'être serviteur de l'Église. C'est le plus grand service qu'on peut donner à l'Église, d'être théologien. Et quand l'Église reconnaît que vous êtes théologien, vous devriez exulter de joie. Mais alors, avoir un souci de serviteur de l'Église. C'est ce que le Père de Lubac disait. Et c'est vrai. Quand on lit les méditations sur l'Église, c'était juste au moment très dur. Où il y avait, je ne dis pas certaines condamnations, c'est pas, mais des mises en garde. Vos rapports entre la grâce et la nature ne sont pas tout à fait dans la tradition de l'Église. Je savais très bien de qui ça venait de Rome. Qui était un théologien, comme Maritain dirait, un thomiste dur. C'est grave de juger la théologie en thomiste dur. On ne peut pas juger un théologien au nom de saint Thomas. On n'a pas le droit. Serviteur de l'Église. On peut dire attention. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en faisant ça, vous quittez la tradition de l'Église? Et saint Thomas est autorité dans la mesure où il atteint la vérité. C'est très vrai. Pour moi, ça m'éclaire. Je m'en sers pour mieux connaître la tradition et mieux connaître l'Écriture. Mais quand je suis en face d'un théologien qui n'est pas du tout un homme, qui ne connaît très peu saint Thomas, est-ce que je vais le condamner au nom de saint Thomas? Non. Je n'ai pas le droit. C'est au nom de la tradition, au nom de l'Écriture. Serviteur de l'Écriture. Je crois qu'on est quelquefois très injuste là-dessus. Je m'en frappe la coupe, parce que c'est vrai, quand j'étais plus jeune, je l'aurais fait assez facilement. C'est pas tout à fait juste. Vous voyez, et je crois que c'est parce que on n'a pas assez le sens que le théologien est serviteur de l'Église. Donc la théologie, c'est le bien de l'Église. C'est pas mon bien. Et là, chacun, on apporte sa pierre. Chacun apporte sa pierre de cette cathédrale énorme, avec ce que faisaient les artistes du Moyen-Âge, sans signer. Mais il serait magnifique si tous les théologiens acceptaient de ne pas signer. Et feraient comme Thomas d'Aquin, parce que là, il est exemple. Son manuscrit, il le déposait auprès du tabernacle et l'offrait à Jésus et donc à l'Église en demandant que si c'était la vérité, très bien, et si c'était pas la vérité, qu'il soit détruit. Et si tous les théologiens et même le moindre article de théologie, on ferait ça pour purifier ses intentions. Un article d'un livre, c'est quand même toujours un peu un enfant que de vous. Pour un artiste, pour un philosophe, pour un théologien, il y tient. Il y tient. Il y a un petit lien. Et ce petit lien l'empêche d'être miséricordieux. L'empêche d'être magnanime. Là, je crois qu'on pourrait appliquer la théorie de Platon, vous voyez. Tous les enfants sont mes enfants. Puisqu'ils sont les enfants de l'Église. Tous les livres de théologie qui disent la vérité sont mes enfants. Ils disent la vérité. Ils sont les enfants de l'Église. Et ça enlèverait cette petite cote personnelle qu'on a tous, il faut bien le reconnaître, on n'est pas pauvre radicalement. Mais on doit l'être, si on veut être un contemplatif. Chaque manque de pauvreté arrête la contemplation. Et arrête dans l'intimité avec Jésus. Alors, vous voyez, le pluralisme théologique, c'est comme ça que je le résolverais, moi. En disant la théologie n'est pas la théologie de tel théologien. Elle est théologie de l'Église. On est mandaté par l'Église quand on écrit un livre de théologie. On est mandaté par l'Église quand on fait un cours de théologie. Et l'Église peut vous enlever ce qu'elle vous donne comme mandat. C'était le cas d'Hanskun. Et ça complique quand il y a des universités d'État. L'université d'État vous prend, il y a un contrat. En tant que vous êtes mandaté par l'Église, si l'Église enlève le mandat, le contrat est disparu. Et les États ne sont plus assez forts pour reconnaître ça. Et pour proclamer que l'autorité de l'Église est première pour le théologien. Et c'est pas sa compétence qui est première. La compétence, c'est très bien, c'est très important. Si on vous a choisi, c'est à cause de certaines compétences. Mais c'est pas ça qui est premier. C'est d'être dans la tradition de l'Église. Et être le rénovare. parce que c'est le rôle propre du théologien, d'être le rénovaré dans la tradition. Vous savez bien ce que saint Thomas dit, et ce que les pères de l'Église disent, et ce que la tradition de l'Église dit. L'Esprit Saint demande à l'Église de conserver, conservare, le dépôt révélé, le patrimoine. On n'a pas le droit de dilapider le patrimoine. On n'a pas le droit de dilapider la théologie. On n'a pas le droit de dilapider Thomas d'Aquin. Chaque fois qu'un théologien écrit contre Thomas d'Aquin, il n'est pas dans la tradition de l'Église. Qu'il fasse des petites remarques respectueuses, très bien. Et quand il dit c'est idiot, c'est passé. Mais non, c'est oublié que la théologie, c'est la théologie de l'Église. L'Église n'est pas passée. Les actes des apôtres sont toujours actuels. Le début de l'Église est toujours présent. Et pour la théologie, quand elle est la théologie de l'Église, elle a quelque chose qui est lié à la tradition et qui est dans la tradition. Comme une œuvre de la tradition. Je crois que ça, c'est très important pour moi. C'est la seule solution par rapport au pluralisme. Autrement, vous êtes tombé dans le fait qu'il y a plusieurs vérités. Non, il n'y a qu'une vérité. On s'approche plus ou moins. Alors, toute la question est de savoir, est-ce que vous possédez la vérité? Ou est-ce que vous êtes possédé par la vérité? Si vous êtes possédé par la vérité, c'est la grande théorie de la participation. Vous participez à la théologie d'Église. Et nous participons à la théologie. Et la participation fait qu'on est plus ou moins proche de la source. Et on participe plus ou moins. Il y a du plus et du moins. La quarta via, il y a du plus et du moins dans l'ordre des perfections. Il y a du plus et du moins dans l'ordre de la vérité théologique. Et ce n'est pas moi qui juge. Je dois aider le jugement. Si je suis mandaté par l'Église de juger, ou mandaté par un évêque de juger, je juge. Le propre du sage, c'est de discerner, de juger. Et vous êtes mandaté par l'Église. Je n'ai pas le droit, en tant que théologien privé, de condamner quelqu'un. Absolument pas. J'ai le droit de dire, à ce que vous affirmez là, pour non. Quand un théologien dit que l'Église, après le Concile, doit réintégrer Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, j'ai le droit de m'insurger, de dire ah non. Parce que seule la vérité peut coopérer avec la révélation. Et je montre que ces philosophies ne sont pas dans la vérité. Là, j'ai parfaitement le droit. Oui, le philosophe a plus le droit de condamner une philosophie que le théologien d'une autre théologie. Le philosophe a parfaitement le droit. Il doit avoir des dents bien forte, le philosophe. Il doit avoir un très grand irascible, comme philosophe, pour dire, attention, ce que vous dites, c'est très dangereux, et c'est vrai à tous. C'est le privilège du philosophe, dans sa sagesse. Alors il le fait avec charité, c'est des chrétiens. Comme chrétien. Oui. Et quand Ramirez me disait, quand j'ai certains livres de philosophes français qui sont un petit peu à côté, je fais la critique en latin parce qu'on injurie mieux en latin qu'en espagnol. Je voyais très bien ce qu'il voulait dire. C'était pas tellement injurier, c'était avoir une précision plus grande et montrer la déviation. Donc, le pluralisme théologique est assez simple une fois qu'on a compris ça. Mais, ce qu'on peut faire, vous voyez, je vois de l'humain. Vous avez entendu ce passage très beau, très très beau, hein, du père de Lubac. Il faudrait que tous les théologiens puissent écrire ça à la fin de leur vie. C'est un modèle qu'on ne peut pas imiter, parce que mais c'est très beau. Ça montre l'authenticité. Le père de Lubac avait connaissance des pères de l'Église, merveilleuse, comme le père Daniel. Connaissance merveilleuse. Et là, on profite de la théologie d'Église. Les pères de l'Église font partie des autorités et donc doivent être toujours présentes. Un Saint Augustin doit toujours être présent. Un Maxime le Confesseur doit être présent. Les Cappadociens doivent être présents. Je ne connais pas tous, mais je les aime. Et en sens que je les aime, quand je peux les lire, je les lis. Ils sont présents. Et j'aime de retrouver tel ou tel taxe. Voilà, c'est ça. C'est un amour qui rend présent. Pierre de Lubac, Daniel Lou ont eu cette grâce de remettre très fort en lumière le point de vue de la patrologie. Même s'ils ne sont pas des patrologues au point de vue scientifique, ils ont remis en lumière ce qu'apportaient les pères de l'Église pour la théologie de l'Église. Ours Balthazar, puisqu'on me les cite, il faut bien que j'en parle. Ours Balthazar met en lumière un autre aspect, l'aspect de la gloire. J'avoue que le premier Ours Balthazar, je vous l'ai déjà dit, là, je pouvais l'attaquer dans l'analogie qu'il faisait. Le thomisme, c'est du néo-gothique. Je dis non, parce que le thomisme n'est pas un art. L'art est lié à un temps, toujours. C'est ce qu'il y a de vrai dans les remarques de Heidegger. Mais la doctrine, la philosophie, la théologie n'est pas liée à un temps. Dire Saint Thomas, c'est très bien pour le Moyen-Âge, eh bien c'est n'avoir rien compris à Saint Thomas. Je regrette, mais c'est ce que je dirais. On peut dire Saint Thomas était merveilleux de son temps et il reste toujours actuel. C'est vrai. Mais il n'est pas la théologie. Parce qu'il n'est pas l'Église. On verra pourquoi on choisit Saint Thomas. Pas l'Église. Mais dire que Saint Thomas c'est l'Église, ce serait une très grave erreur. C'est une hérésie. Contre la foi. C'est comme si on disait la communion Saint-Jean c'est l'Église. Mais non. Petite place dans l'Église. Une place bien située puisque c'est dans le renouveau. Mais c'est une petite place dans l'Église. Et mettre en acte le conservare de la vie monastique et le rénovare dans la vie monastique. Du point de vue doctrinal, la même chose. Ce qui est plus difficile, ce qui est plus lent, ce qui met du temps. Et c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait l'exégèse, on veut qu'il y ait les pères de l'Église, qu'il y ait tout doit être présent. La théologie représente une cathédrale. Alors, je ne sais pas la place de l'exégèse exactement, on m'a trompé. Très juste. On a la joie de la voir. Rahner. J'avoue que dans Rahner, il y a beaucoup de choses où je poserai des points d'interrogation. Dans Balthazar, on l'aime. Je ne serai pas disciple de Balthazar. Je crois que Balthazar est un grand poète et qui dit des choses extrêmement poétiques. Alors, où on pourrait discuter avec lui, c'est par rapport à la théologie mystique. Le tournant dans la vie de Balthazar, c'est toujours intéressant d'avoir ça. C'est cette mystique qu'il a rencontrée. C'est ça qui l'a fait quitter la communauté, qui l'a fait quitter les pères jésuites, la compagnie. J'ai vu, j'étais à Fribourg à ce moment-là. Au moment des vœux perpétuels, Balthazar envoyait tous ses amis. Je n'étais pas du nombre, mais j'étais l'ami d'autres amis. Donc j'ai vu les feuilles. C'est vrai, je ne connaissais pas assez Balthazar pour être un ami. Balthazar envoyait tous ses amis, père de Ménas, un papier qu'il envoyait tous. Comme quoi il quittait la compagnie. Tout bien et tout honneur, au moment de ses grands vœux. C'était un faire-part. C'était assez curieux, mais c'est un faire-part. Parce que je crois qu'il voulait que les choses soient très nettes. Et qu'il quittait la compagnie pour être au service davantage de l'Église. De de cet Institut Saint-Jean qui commençait. Et puis surtout, surtout, c'est un mystique qu'il connaissait bien et qui a beaucoup joué dans sa vie. C'est à partir d'elle que Balthazar s'est orienté beaucoup vers une théologie mystique. Il a pris ce billet de la gloire. On essaiera de comprendre. Je le situe. Balthazar n'est pas du tout du côté de la théologie scientifique, pas du tout. Le père de Lubac l'a été plus à certains moments. Le père de Lubac est un spirituel, avant tout. Et c'est vrai, son traité sur l'Église, c'est beaucoup plus du côté mystique. La manière de regarder l'Église, de façon vitale. Alors, nous avons Barthes. Oui, Rahner. C'est quand Rahner dit, il l'approuve, en historien. Le grand tournant de l'Église, dans la théologie, c'est que l'anthropologie remplace la métaphysique. C'est écrit. On aurait attendu après ça un certain jugement, discernement, il n'en fait pas. Donc il considère que c'est l'évolution normale de la théologie. Un jour, j'ai demandé au Saint-Père si je comprenais bien sa pensée, dans l'intimité. Je lui ai dit, très Saint-Père, vous avez avant tout une anthropologie. Mais votre anthropologie reste ouverte à une métaphysique. Et que vous le désirez. Parce que vous ne voulez absolument pas aborder la métaphysique. Il est resté dans le silence. Quelques minutes. Et il m'a dit, c'était très beau. Merci. Parce que je le savais, qu'il y avait des amis thomistes qui attaquaient le Saint-Père en disant « Vous n'êtes plus thomiste. » C'est un peu gros. Hein. C'était des Polonais. Des amis. Alors, pratiquement, il me demandait « Est-ce que vous avez la même impression ?» Je dis « Pas du tout. » Puis le même jour, je voyais Saint-Père le matin. Je voyais ce théologien que connaissait très bien, Paul VI, et qui avait beaucoup travaillé avec lui, qui est un théologien thomiste assez dur. Je n'ai pas dit que j'avais vu Saint-Père le matin. Il a parlé du pape, en théologien. Il dit, ah, oui, c'est très bien le pape, mais quand même, il n'est pas formé. Pas formé. Thomiste chez lui, il ne connaît pas très bien. Et alors, l'enseignement qu'il donne le mercredi sur la Bible, oh non, si vous le connaissez, dites-lui de s'arrêter. Et j'avais moi le matin remercier le pape de ça. Parce qu'il fallait une très grande audace de la part du pape de faire ça. Très grande liberté. Vous voyez, c'est là ce thomisme rigoureux. On ne va plus qu'à travers ça. Mais non, quoi, le pape, on ne lui demande pas d'être thomiste, on lui demande d'être pape. D'enseigner le peuple de Dieu. Et d'en enseigner avec le plus de vérité possible. Et avec la grâce de Dieu. Mais le thomiste n'est pas un absolu. C'est une foi merveilleuse que Dieu nous donne pour être théologien. Merveilleuse. Mais saint Thomas le premier vous dirait surtout ne soyez pas des thomistes étroits. Recherchez la vérité à travers tout. Aimez saint Thomas en tant qu'il recherche la vérité. Alors on l'aime beaucoup. Et plus j'avance, plus je l'aime. Mais plus en même temps, je comprends que saint Thomas demande d'être au service de l'Église. Alors je crois que le pape est au service. Serviteur des serviteurs. Alors voyez, quand Rahner dit ça, lui pourrait faire la remarque. Est-ce que la métaphysique est terminée pour l'Église? L'influence de Heidegger est très forte sur Branner, bien qu'il n'avoue pas, mais très forte. Et au fond, c'est l'influence de Branner qui considère que la métaphysique est périmée. Mais la métaphysique dont parle Ranner, la métaphysique dont parle, je veux dire, Heidegger, c'est la métaphysique de Wolf. Donc Heidegger a une très grosse influence sur Ranner, ça on ne peut pas nier. Et je crois qu'il fait cette déviation. On ne peut pas faire une théologie en se servant de Heidegger. Certains dominicains ont essayé. Certains jésuites essayent avec Hegel. Et on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il manque un réalisme. La philosophie première chez Heidegger devient l'ontologisme fondamental. C'est-à-dire penser l'être. Est-ce que la foi peut assumer penser l'être? Posez-vous la question. La foi regarde bien plus. Elle regarde Dieu. Est-ce que Dieu pense l'être? Est-ce que penser l'être m'aide au point de vue de la foi? Parce que je pose la question, mais qu'est-ce que c'est que penser l'être? L'être est abstrait. Je ne peux pas m'arrêter à blancheur. Je ne peux pas m'arrêter à essai, à être, qui est un mode abstrait. Il faut que je revienne à la réalité existante qui vient de Dieu. Dieu n'a pas créé l'être. Je ne peux pas non plus faire une nouvelle théologie à base de Hegel. Pourquoi? Parce que c'est l'idée qui est première. C'est l'intelligence humaine dans son développement dialectique qui est première. Et Dieu est la vérité absolue. Il n'y a pas de dialectique en Dieu. Dieu ne peut pas être pensé par la dialectique. Il est au-delà. Donc vous voyez, quand il s'agit de Ranner, on peut critiquer la philosophie qu'il emploie. Et montrer qu'on ne peut pas faire cette alliance de la foi. Autrement, la foi est contaminée. Quand il s'agit de Barthes, on peut faire les mêmes remarques. Barthes fait l'éloge de Hegel, le plus grand théologien luthérien. Mais il ajoute tout de suite, je vous l'ai déjà dit, et je le répète parce que je voudrais que ce soit inscrit dans votre intelligence, et que vous puissiez le répéter de temps en temps à ceux qui critiquent saint Thomas. Barthes ajoute, sauf peut-être Thomas d'Aquin, qui a pénétré plus loin dans le mystère de la très sainte Trinité. Les pages de Barthes sur Hegel sont considérées par le professeur Bourgeois comme les pages les plus intelligentes qui ont été écrites sur Hegel, avant Bourgeois. Parce que reconnaître ça, c'est très grand. Je crois que Bourgeois comprend mieux Hegel que Barthes. Je crois. Et je crois que c'est lui qui le comprend le mieux. C'est un catholique. Parce qu'il le fouille beaucoup plus. Vous voyez, Barthes a écrit des choses très belles qui aident à comprendre Hegel. Comme théologien, pour comprendre que Hegel est un théologien, et le grand théologien luthérien.
Barthes est protestant ou catholique?
Protestant, protestant. Il est à la tête de tout un grand mouvement protestant, d'un renouveau protestant, très fort. La dogmatique de Barthes, prenez, c'est énorme. Je n'ai pas lu beaucoup de Barthes, mais quelques-uns, quelques. Le père Amer était venu à Fribourg quand j'étais déjà comme professeur, lui était étudiant. Ma supériorité sur lui, parce que quand quand j'ai reçu à Fribourg, il était étudiant, si je me le rappelle de temps en temps, il était étudiant et il a fait sa thèse sur justement Barthes. Et je m'intéressais beaucoup à ça. C'est très intéressant de voir un étudiant qui fait une thèse sur un sujet donné, parce qu'il le fait avec la verdeur d'un étudiant et l'enthousiasme d'un étudiant. Alors ça aide beaucoup. Parce que quand on est déjà, vous savez bien, quand on est jeune, on reflète dans ses aspirations et ses nostalgies la culture qui monte. Et quand vous avez 20 ans, vous ne reflétez plus la culture qui monte. 20, 25 ans. Et quand on a 30 ans, ou bien 50 ans, on ne reflète plus la culture qui monte. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'écouter un jeune étudiant qui fait une thèse. C'est toujours très intéressant. Il vous apprend toujours. Parce qu'il voit des choses que vous n'avez pas vues. Il me relève des choses que vous n'avez pas vues. Et ça apprend beaucoup plus que de lire. J'ai aidé beaucoup André de Muralt, puisqu'il était venu au Saulchoir pour faire sa thèse sur Husserl. On l'a faite à deux. Il me l'avait demandé. J'ai dit, venez. Et j'ai fait toute sa thèse avec lui, sur Husserl. Et ça m'a permis d'entrer dans Husserl. Après, j'ai eu à Fribourg un autre dominicain, qui faisait sa thèse sur Husserl. On entre comme ça, mais profondément, dans certains philosophes qu'on pourrait lire autrement, mais quand on les lit à travers quelqu'un qui le regarde en premier lieu, c'est un petit truc ça, et très, très, très astucieux, et qui nous aide beaucoup ça. Et je crois qu'on pourrait faire ça pour tous les jeunes, vous voyez, qui font des thèses, qui sont intelligents. Il y en a qui font des thèses pour que ce soit vite fait. Et celui qui vraiment l'a fait avec intérêt, parce qu'il y a une sève montante. Voyez, là, je peux dire, jusque Jean-Paul II. Jean-Paul II est plus qu'un théologien. Plus. Mais s'il est théologien, il ne fait plus de théologie. Il fait du pape. C'est tout à fait différent. Parce qu'il y a un regard beaucoup plus universel et mondial, surtout la place qu'il a. C'est peut-être sa très grande grâce. C'est dans ce sens-là qu'il touche de proche Jésus et Pierre. Il y a quelque chose de très extraordinaire. Il est sorti, vous voyez, de ce que représentait un peu avant la capitale Rome. C'est ce que certains l'ont reproché. Je crois que c'est sa grâce. Et on en voit les effets maintenant, très fort. D'ouvrir, voyez, l'Église au monde. Ce que le Concile avait demandé. Le Concile demande ça. C'est un peu comme la dernière semaine de Jésus. Jésus, dans la dernière semaine, il continue de parler avec ses apôtres. Mais il parle aux Grecs, il parle à Pilate, il parle au grand prêtre. C'est la semaine de l'éclatement. Et on est en phase de cet éclatement. C'est dans ce sens-là que je crois que Vatican II, c'est ouvrir l'Église dans la dernière semaine. Et qu'on a en face de nous cette sorte d'éclatement que on doit ressentir comme théologien. Je ne peux plus être un théologien du début du siècle. Carrico-Lagrange. Impossible. Je dois être un théologien de cet éclatement d'Église qui s'occupe de tout. Et c'est ça qu'apporte Jean-Paul II. Donc vous voyez, le pluralisme montre la cathédrale ou le mont, la grande montagne, l'Himalaya. Et chaque théologien, s'il est fidèle à l'Église, met une pierre. Quel très bon sens. Philippe Vitrault. Balthazar, Philippe Vitrault, très beau. Un vitrail, une brise merveilleuse. Un merveilleux vitrail. Une mosaïque extraordinaire. C'est ça qu'il fait. Et c'est beau, c'est grand. Et c'est ça par là que le pape a été très séduit par Balthazar. Il a lu tout Balthazar. Avant de le proclamer le théologien premier dans l'Église. Et il l'a élu pour être cardinal. Et le Seigneur l'a pris avant. Ce qu'est la théologie dans ses différentes parties. Est-ce que nous allons attaquer tout de suite? Oui.
Il y a un problème que je voulais poser au sujet du pluralisme théologique. Oui. Quand les théologies sont complémentaires, ça va très bien. Oui. Mais il y a des fois où elles s'opposent. Et, voilà. Et il y a une qui est vraie ou une qui est fausse, ou les deux fausses, ou les deux vraies. Et
oui.
Par exemple, l'Église a refusé de se prononcer pour la question de la grâce entre les amis et les malinistes.
Oui, oui.
Mais.
Il y a une vérité.
Est vrai,
oui, mais tout à fait. Je suis d'accord que les thomistes ont la vérité. Je suis d'accord que les thomistes ont la vérité. Et que les molinistes et Suarez. Et l'Église les tue par miséricorde. Et les théologiens continuent de dire là, c'est pas juste. Et on remet ça à l'Église. Le théologien continue de se battre. Vous voyez, vous êtes tout à fait d'accord que la théologie, c'est la théologie de l'Église. Donc, il y a des parties différentes. Quand les parties s'opposent, c'est le théologien qui doit tout le temps se battre pour la vérité. Donc, il n'a pas le droit, en tant que théologien, s'il est capable de se battre, il doit se battre, comme philosophe aussi, pour dire. Et le jugement dernier, c'est l'Église. Et l'Église peut très bien se taire, par miséricorde, pater tacebat. Comme dit Bossuet, en reprenant le texte de l'Écriture, en parlant de Joseph. Le père, Jacob, le père de Joseph, se taisait. Pater tacebat. Il voyait la querelle des frères. Il était pourtant, son cœur était entièrement pourtant. Le pape se tait actuellement, constamment. Pater tacebat. Parce qu'il est père. Il est très père. Alors il se tait. Il demande aux théologiens de se battre. Il supplie aux théologiens. Moi je le vois pour la philosophie. Il supplie de maintenir la métaphysique. La philosophie première. Il le demande. Sachant très bien qu'en faisant ça, on est au cœur du combat. Parce que grâce à la métaphysique, à la philosophie première, je peux discerner avec beaucoup plus d'acuité toutes les erreurs. Et philosophie utilisée. C'est pour ça que je dis, moi, c'est Suarez. Parce que Suarez a une analogie fausse. Et c'est pour ça qu'on a une théorie de la grâce qui, hélas, je crois personnellement, ça c'est mon jugement propre, commande tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois que le pape devait se taire, il s'est tué, je ne le juge pas. Mais alors, la théorie moliniste et suarésienne de la grâce a tout envahi. Amen. La remarque du père Dreyfus, c'est tout à fait juste. Je crois, j'insistais sur la mentalité, sur l'intention. La théologie de l'Église est vraie. Ça ne veut pas dire que tous les théologiens soient vrais. Mais dans la mesure où ils coopèrent à cette théologie, je crois qu'ils se mettent dans une attitude de recherche de vérité. Quand on se met dans cette attitude de recherche de vérité, on se soumet d'avance au jugement de l'Église. Et quand on se soumet d'avance au jugement de l'Église, on permet à l'Église de juger. Quand l'Église est en face de fils pas très docile, c'est comme quand des enfants grandissent, le père ne peut plus faire grand-chose. Tachébat. Quand les fils sont dociles et qui désirent chercher la vérité, l'Église peut parler. Il faudrait que tous les théologiens demandent à l'Église le jugement. Mais l'Église ne peut pas le faire. Mais il faut que dans l'intention on est comme ça. C'est ça que je veux dire. Alors par le fait même, l'Église laisse. Et ça je l'ai vu. C'était même très beau. Il y a eu des histoires à Fribourg, des histoires assez graves, au point de vue doctrinal. L'Église a dit, c'est vous, entre théologiens, dans votre conseil de théologie, qui devez faire la remarque à votre confrère. L'Église considère que les enfants sont arrivés à un âge suffisamment adulte et suffisamment conscient qu'ils devraient, entre eux, se faire la correction paternelle. Mais c'est très difficile. J'ai vu un moment, je dis pas ça pour me mettre en situation, mais j'étais seul en faculté de théologie de dire non, on peut pas dire ça. Et j'étais philosophe, oui, j'étais bien placé. Alors on m'a dit à ce moment-là, mais vous n'êtes pas théologien, Père Philippe. Alors j'ai dit, je suis croyant et je suis philosophe, donc je suis théologien. Et je peux, cher père, remarquer que votre philosophie n'est pas toujours très juste. Non, et c'est dur. C'était une correction paternelle. J'étais seul. J'ai écrit à ce moment-là au père général. Là, je suis seul. Faut-il maintenir ma position? Je peux me taire. Le père général m'a répondu en me disant maintenez. Et au fond, parce que c'est entre dominicains. C'est pas très délicat de maintenir sa position. C'est pas si on est dans la vérité. Hein. Quand on en a 18 ans, il faut qu'il dise l'inverse. Il faut que les théologiens se battent pour la vérité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde, mais c'est leur devoir. C'est leur devoir. Alors toujours en demandant à des confrères si on ne va pas trop loin. Moi je crois. Parce que quand on est dans un combat, vous savez, la passion des racines est très forte chez les intellectuels. Elle augmente. Et là, on ne voit plus toujours très bien. Alors, il faut toujours avoir un frein. Sur la remarque du père Dreyfus, c'est tout à fait juste. Je crois... J'insistais sur la mentalité, sur l'intention. La théologie de l'Église est vraie. Ça ne veut pas dire que tous les théologiens soient vrais. Mais dans la mesure où ils coopèrent à cette théologie, je crois qu'ils se mettent dans une attitude de recherche de vérité. Quand on se met dans cette attitude de recherche de vérité, on se soumet d'avance au jugement de l'Église. Et quand on se soumet d'avance au jugement d'Église, on permet à l'Église de juger. Quand l'Église est en face de fils pas très docile, c'est comme quand des enfants grandissent, le père ne peut plus faire grand-chose. Tachébat. Quand les fils sont dociles et qui désirent chercher la vérité, l'Église peut parler. Il faudrait que tous les théologiens demande à l'Église le jugement. Mais l'Église ne peut pas le faire. Mais il faut que dans l'intention on est comme ça. C'est ça que je veux dire. Alors par le fait même, l'Église laisse. Et ça je l'ai vu. C'était même très beau. Il y a eu des histoires à Fribourg. Des histoires assez graves. point de vue doctrinal. L'Église a dit, c'est vous, entre théologiens, dans votre conseil de théologie, qui devez faire la remarque à votre confrère. L'Église considère que les enfants sont arrivés à un âge suffisamment adulte et suffisamment conscient qu'ils devraient, entre eux, se faire la correction paternelle. Mais c'est très difficile. J'ai vu un moment, je ne dis pas ça pour me mettre en situation, mais j'étais seul en faculté de théologie de dire non, on ne peut pas dire ça. Et j'étais philosophe, oui, j'étais bien placé. Alors on m'a dit à ce moment-là, mais vous n'êtes pas théologien, Père Philippe. Alors j'ai dit, je suis croyant et je suis philosophe, donc je suis théologien. Et je peux, cher père, remarquer que votre philosophie n'est pas toujours très juste.